avions, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du gris.
Bienvenue dans notre émission L'Actu Verte. Nous sommes ici une équipe de la classe de Terminale L au lycée Paul Scarron et nous sommes sur fréquencier 97.9 FM. Aujourd'hui, nous sommes au complet avec autour de la table Léa, bonjour.
Bonjour.
Morane.
Bonjour.
Pauline.
Bonjour.
Marine.
Bonjour.
Florine.
Bonjour.
Margot.
Bonjour.
Tessa.
Bonjour.
Et Lucie.
Bonjour.
Notre émission se donne comme objectif de vous apporter chaque semaine des informations sur l'état de notre planète. Chaque jeune reporter vous présentera une actualité sur l'environnement, l'écologie, les gestes innovateurs pour réduire la pollution et notre consommation, et on l'espère, minimiser les changements climatiques. Le premier sujet va nous emmener du côté de Milan, où Margot va nous parler de l'exposition universelle.
Alors oui, je vais vous parler de l'exposition universelle de Milan, qui s'est terminée le 31 octobre 2015. Donc c'est un grand événement qui consiste à montrer à beaucoup de milliers de visiteurs un parcours sur nourrir la planète, les énergies pour la vie et la sécurité alimentaire qui est mis en lien avec le développement durable. Donc voilà, c'est une exposition qui montre un peu, qui parle du développement durable, et la France salue et félicite la réussite de cette exposition qui est organisée par l'Italie. Elle a tenu à mettre son grain de sel car elle a été soutenue par le pavillon français et 6 ministères, notamment le ministère des Affaires étrangères. Donc cet événement a regroupé des milliers de personnes et plus de 50 débats autour des thèmes présentés précédemment. La France a voulu valoriser la gastronomie et l'art de vivre à la française, ainsi que les efforts pour valoriser le développement durable de l'agriculture. Donc je pense que c'est des bonnes choses de pouvoir faire des expositions à travers le monde qui parlent du développement durable. Comme ça peut sensibiliser vraiment tout le monde. Et la France, et notamment François Hollande, a tenu à participer à l'exposition qui se tiendra en 2025.
Alors Margot, est-ce que l'expo a utilisé des infrastructures elles-mêmes écologiques ?
Je n'ai pas eu d'informations à ce sujet-là, mais je pense qu'il y a eu quand même des efforts de fait au niveau de l'écologie, au niveau des infrastructures et de la nourriture.
Maintenant, nous avons Lucie qui va nous parler des transitions énergétiques dans les transports.
Alors effectivement, moi je vais vous parler de la loi TECV, soit la loi pour la croissance verte, qui a été adoptée il y a quelques mois en France. Donc cette loi, elle vise, comme son nom l'indique, à faire évoluer l'écologie. Les transports font donc partie intégrante de cette loi, étant le deuxième poste de consommation énergétique juste derrière l'habitat. C'est le secteur qui émet cependant le plus de gaz à effet de serre, avec au total 27% en 2011. Aujourd'hui, le changement des transports publics est déjà très largement entamé. En effet, les villes comme Bordeaux et Toulouse ne sont plus au 100% diesel. À Paris, d'ici 2025, 80% des bus seront électriques et 20% marcheront au biogaz. De plus, les transports par câble et tramway sont de plus en plus plébiscités, comme à Grenoble. D'autre part, les véhicules des particuliers, eux, restent toujours aussi présents et polluants. Ainsi, Ségolène Royal a déclaré il y a peu que les gens achetant une voiture électrique auront un bonus de 10 000 euros en échange de l'abandon d'un vieux véhicule diesel de plus de 10 ans au lieu actuellement d'un véhicule étant âgé de plus de 15 ans. De quoi booster ses ventes, on l'espère.
Pour notre troisième sujet, Tessa va nous parler de la Déclaration des droits et devoirs de l'humanité.
En effet, donc François Hollande a chargé Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, à la rédaction d'une Déclaration des droits et devoirs de l'humanité. Le but est, en 4 principes, 6 droits et 6 devoirs, de mettre en avant le droit pour tous les habitants de la Terre à vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis par l'irresponsabilité du présent. Le texte a été rendu public le 2 novembre et sera présenté lors de la COP21, l'objectif étant de le faire adopter en 2016 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette déclaration permettrait de réaffirmer le principe de vivre dans un environnement sain et de permettre à toutes les espèces vivantes d'en bénéficier de manière équitable. Donc je voulais savoir, les filles, est-ce que vous soutenez cette déclaration ?
Moi, j'ai pas très bien compris en quoi elle consiste. Est-ce que tu peux expliquer ?
Donc, la déclaration consiste à... enfin, François Hollande a dit, donc je cite, que le droit pour tous les habitants de la Terre, enfin ça, enfin ouais, c'est un droit pour tous les habitants de la Terre à vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis, donc par l'irresponsabilité du présent. Donc en fait, ça, c'est plus ouais, sur le concept du développement durable.
Est-ce que tu veux dire que ça se rajoutera à la charte des droits de l'homme, le droit de vivre dans une planète propre?
Je sais pas si ça se rajoute. Ouais, je sais pas. En fait, c'est le même principe que la Déclaration des droits de l'homme, mais c'est comme la Déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas de contrainte. C'est
donc là, ça serait avec des obligations derrière.
Par la suite, j'ai lu que oui, donc il y aurait des sanctions, mais par contre, pour l'instant, non. Enfin, déjà, il faudrait qu'elle soit acceptée, évidemment, enfin qu'elle soit votée, mais pour l'instant, non, il n'y a pas de contrainte. C'est vraiment. Enfin, comme le principe des droits de l'homme, mais pour toute l'humanité.
Et quand tu dis voter, ça serait voter à l'ONU, c'est ça?
À l'Assemblée Générale des Nations Unies.
D'accord. Okay.
Et ça risque d'être voté pour quand?
Normalement, c'est prévu pour 2016.
Et tu penses que... donc l'année prochaine, du coup, est-ce oui. que tu penses que ça pourrait être vraiment mis en œuvre, étant donné que la planète n'est pas du tout propre?
Bah, ça serait bien. Que ça se mette en place.
C'est vrai que moi, le mot qui me vient à l'esprit en anglais, c'est « walk your talk ». Parole, parole. Ce serait bien de voir des actions et pas que des belles chartes ou des belles déclarations. Moi, je veux voir de l'action de la part de tous les gouvernements.
Mais c'est walk sûr, après, la déclaration, elle vient juste d'être publiée. Donc, c'est très récent. Donc, on attend de voir les résultats.
Merci Tessa. Alors maintenant, nous allons nous tourner vers Léa qui va faire un point sur le département le plus engagé dans l'écologie.
Effectivement, Célia, donc on le sait, toute la transition écologique et énergétique s'enracine de plus en plus dans nos territoires. Le palmarès des départements les plus écologiques le prouve. Ce hit parade vert ne se veut pas un classement des départements où il fait bon vivre, mais plutôt un indice de la dynamique enclenchée par les acteurs locaux sur les enjeux écologiques. Or, au fil des années, la carte de France se révèle de plus en plus verte, ce qui est bon et bien. Cette année, c'est la Gironde, déjà lauréate en 2013, qui se hisse en haut du podium, suivie de l'Hérault et des Côtes d'Armor. Ce plus grand département de France se distingue par toutes ses initiatives pour la transition énergétique. Donc, avec des bâtiments haute qualité environnementale, des maisons basse consommation, une valorisation de la biomasse en essor ou encore un important parc solaire d'une puissance de 75 mégawatts. Toute une dynamique portée tant par le département, les communautés de communes, les municipalités que par les associations et les citoyens. Cet équilibre écologique de la Gironde est néanmoins fragilisé par une érosion du littoral, conséquence du changement climatique, et par une urbanisation rapide, mal maîtrisée, entraînant une artificialisation excessive des terres. Un sujet sensible dans les départements posé par l'étalement urbain et le développement des centres commerciaux par exemple, mais aussi par de grands aménagements comme la LGV Bordeaux-Toulouse ou la centrale photovoltaïque, de Cétas, aujourd'hui en construction, qui avec ses 260 hectares deviendrait la plus grande d'Europe.
Et est-ce que tu sais où se situe la Sarthe dans ce palmarès?
Ah non, je suis désolée, j'ai pas vu cette information, je me suis pas renseignée plus que ça.
Bah, je vais juste rajouter le fait que au Mans, ils sont en train de construire une ceinture verte, c'est-à-dire une piste cyclable tout autour du Mans. Ils ont déjà fait certaines tronçons et moi je l'ai utilisé, et c'est vrai que c'est super agréable de pouvoir courir ou faire du vélo vraiment proche du Mans mais en pleine nature, et ça va faire tout le tour du Mans.
Et en parlant du Mans, je pense que c'est bien de faire des choses comme ça, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau de cette grande ville. Je vois par exemple, il n'y a toujours pas assez de liaison entre Le Mans et Saint-Saturnin. Donc Saint-Saturnin qui est quand même une grande zone commerciale, et il n'y a pas de tramway qui relie ces deux espaces, et il n'y a pas assez de bus.
Passons maintenant à Florine qui va nous présenter une musique.
Alors oui, c'est un groupe appelé Banana Slug String Band, qui est un groupe qui a été formé en 1985 en Californie. C'est un groupe de 4 naturistes qui font surtout des chansons plutôt sympas, éducatives pour les enfants. Alors la chanson qu'on, la chanson qu'on va écouter aujourd'hui, elle s'appelle Ecology. Elle parle justement de l'écologie. Elle nous raconte que tout est interconnecté, que nous avons un pacte sur les autres, sur nature, et que personne n'aime la pollution, et que justement il faut remédier à ça. Donc on va l'écouter tout de suite.
Fits together naturally. The flower on our plant needs a buzzing bee. Everything is connected, we say. We're all related in a special way.
ECOLOGY. Fresh air.
No one here likes pollution. A friend, she tells me she's got the solution. Recycle paper, cans, and glass. Learn about conservation in your class.
ECOLOGY.
That's ecology.
Fresh air.
Eh bien, merci Florine de nous faire découvrir cette musique engagée pour la planète. Maintenant, nous allons passer du côté de Pauline qui va nous emmener à parler des négociations pour la COP21.
Alors oui, alors je ne vais pas parler vraiment des négociations, mais je vais parler du regroupement qu'il y a eu des pays pendant les vacances. Donc maintenant, à moins d'un mois de la conférence de Paris sur le climat, les représentants des 195 pays se sont réunis pour une dernière semaine de négociations, donc pour freiner le réchauffement climatique. À Bonn, les pays en développement ont critiqué le nouveau texte qui va devoir servir de base pour les discussions. Ils le trouvent vraiment déséquilibré et ils trouvent qu'il manque d'ambition. Donc François Hollande a reconnu les interrogations sur le degré d'ambition au compromis qui sera trouvé entre les 195 pays. À ce stade, 150 États ont remis à l'ONU leur contribution pour réduire leurs émissions. La Terre est sur une trajectoire de réchauffement de 2,7 degrés en plus qui serait avec les réductions, ce qui est déjà mieux que les 4-5 degrés de prévu. De plus, pour signer un accord, beaucoup de pays veulent un soutien financier et technologique pour réduire leurs émissions. Si on regarde entre 1990 et 2012, par exemple, la France a réduit de moins 5,% son émission de CO2, mais alors que l'Espagne a augmenté de 29,4% de hausse. Donc, moi, je voulais savoir si vous pensez que vraiment, si les pays qui demandent un financement pour réduire leurs émissions, est-ce qu'ils ont vraiment envie que tout ça change, puisque finalement, ils veulent un financement, ils veulent pas le faire d'eux-mêmes.
Après, il y a des pays, l'Espagne a connu la crise économique quand même, donc peut-être qu'elle a vraiment besoin de ce financement. Après, ça dépend des pays, s'ils ont vraiment envie d'être engagés. Je pense que ça faut que... Là, ça peut pas venir que d'une personne, il faut que ça vienne du pays. S'ils ont vraiment envie d'être engagés, après, c'est vrai que s'ils demandent des financements, peut-être qu'ils vont mettre en place pour être pour être sûr que cet argent soit utilisé vraiment pour les financements. Mais après, personne peut en être sûr à 100%.
Et est-ce que tu sais quels pays ont demandé des financements ?
Je sais qu'il y a, surtout les pays d'Asie qui sont pas très, qui sont en développement. Et sinon, non, pas spécialement. Enfin, je sais que c'est les pays en développement.
Donc, du coup, moi, je vais penser un peu comme Lucie. Enfin, je pense que certains pays vont demander ces financements pour vraiment mettre en place, donc prouver que eux aussi, ils s'engagent dans le développement. Mais je pense que aussi. Ça peut être fait que pour des raisons financières, sachant que c'est des pays en développement. Est-ce que, justement, ils n'utiliseraient pas ce moyen pour lancer encore plus leur développement ?
Merci Pauline. Et voici Marine qui va nous raconter quelque chose sur le déplacement de François Hollande en Chine.
Tout à fait. Alors, du côté de la France, François Hollande se lance dans un sprint pour le climat à moins de un mois de la conférence à Paris. Donc, selon lui, le pari de la COP n'est pas gagné. Pour essayer de faire bouger les choses, ce dimanche 2 novembre, il est parti en Chine continentale à Chongqing. Il s'est poursuivi en Corée du Sud ce mardi 3 novembre. Alors, ce déplacement a pour objectif de débloquer l'idée auprès des dirigeants chinois d'une clause de revoyure afin d'atteindre l'objectif fixé par l'ONU, à savoir une limitation du réchauffement planétaire à moins de 2 degrés en 2100. Puisque, il faut le rappeler, la Chine est quand même l'un des pays qui pollue le plus et qui veut le moins faire d'efforts sous peine de faire baisser son économie, donc pour le réchauffement climatique.
Et pour finir, Moran a choisi de nous parler des déplacements de François Hollande avant la COP21.
Oui, donc pour l'heure, le chiffrage des contributions indiquerait une hausse de la température de 2,7 à 3 degrés selon diverses études à l'horizon 2030. Les experts du ministère de l'écologie sont plus optimistes, plus 2,5 degrés selon Ségolène Royal. Donc Monsieur Hollande a fait plus d'une vingtaine de déplacements et met ainsi fin à une séquence nationale au cours de laquelle il a cumulé ses déplacements en 2 mois, ponctué par une visite au Mont-Saint-Michel. Les affaires internationales reprennent le dessus en novembre. À son retour de Chine, comme l'a dit Marine, il présidera un conseil de défense jeudi 5 novembre à 11h30 afin de faire le point sur les frappes françaises en Irak et en Syrie. Il en profitera pour inaugurer ce même jour le nouveau ministère de la Défense à Ballard dans le 15e arrondissement de Paris. Le 9 novembre, il accueillera le président bolivien Evo Morales et enchaînera les 11 et 12 novembre par le sommet Europe-Afrique à Malte. François Hollande plaidera en faveur du développement des énergies renouvelables en Afrique avant 2020. Un sommet du G20 se tiendra ensuite les 15 et 16 novembre en Turquie. Le président se rendra également à Malte le 27 novembre pour assister au sommet du Commonwealth, une tournée internationale durant laquelle il tentera de sensibiliser les chefs d'État à la réussite de la COP21, laquelle commencera le 30 novembre à Paris, où nous y serons d'ailleurs, jusqu'au 12 décembre. Et le 1er octobre, 146 pays avaient déjà remis leur contribution, représentant 86% des émissions de carbone.
Mais quel est, d'après toi, le vrai enjeu pour François Hollande ?
Je pense que François Hollande veut, par ses actions, montrer qu'il agit, qu'il est acteur, et qu'il a envie de sensibiliser, mais pas que, il veut également agir.
Moi, je pense que c'est peut-être un peu aussi pour remonter sa cote de popularité, parce qu'on le sait, notre président n'est pas vraiment dans le cœur de tous les Français. Donc, je pense que c'est pas que pour des questions écologiques. Et je trouve ça aussi un peu dommage qu'à moins d'un mois de la COP, il commence seulement à faire bouger les choses et à, en tout cas, faire croire qu'il mène des actions.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Je suis d'accord et non, parce que... En ce moment, on parle beaucoup plus de la COP et de François Hollande, et je trouve que, même s'il s'y prend un peu tard, et je trouve qu'il s'investit quand même beaucoup pour ça, et qu'il prend pas ça à la légère. Donc je pense qu'on devrait quand même prendre ça en compte, quoi.
Oui, mais s'investir au dernier moment, enfin, c'est... Si on veut vraiment s'investir dans quelque chose, pour moi, surtout dans l'écologie, c'est vraiment quelque chose sur le long terme et pour le futur, pour les futures générations. Donc, on ne peut pas s'investir seulement un mois dans l'année, faire des déplacements, faire en sorte que ça marche, faire une conférence qui va durer 2 semaines pour mettre de la poudre aux yeux aux gens et après dire voilà, on n'en parle plus. Il faut vraiment que ça dure sur le long terme. Et si déjà il s'y prend juste un mois avant la COP.
Je suis d'accord avec Lucie. Je pense que déjà, de nombreux Français ne savent même pas ce que c'est la COP21. Alors, il aurait dû déjà commencer, même peut-être au début de l'année, pas forcément faire des déplacements, mais déjà dans son pays, rien que dans la France, essayer de faire connaître la COP21. Quand moi, j'en parle autour de moi, vraiment, les gens ont du mal à comprendre que c'est pour vraiment changer les températures et tout ça. Quand on parle que là, on a encore des bonnes températures, c'est vrai qu'il fait pas froid pour un mois de novembre. Et quand je parle que c'est du réchauffement climatique, les gens ne savent pas ce que c'est la COP21, quoi. Donc, je pense qu'il aurait dû déjà commencer son en parler dans son pays et après effectivement faire des déplacements.
Oui, Morane.
Le fait que aussi s'il aurait agi un peu trop avant, enfin il a quand même agi avant parce que enfin ça se fait quand même en France, donc il y a certaines choses que nous on n'a pas forcément peut-être entendues aussi, mais je pense que le fait qu'il agisse autant au dernier moment, c'est aussi de montrer que bah voilà, c'est là que tout se joue. Et ça fait quand même un certain moment que je pense qu'il prépare ça parce que enfin ça se passe quand même à Paris, donc il est forcément concerné.
Moi je suis d'accord avec vous les filles, mais il faut surtout rappeler à la population et surtout à ceux qui savent ce que c'est la COP et ceux qui en ont entendu très brièvement que tout n'est pas gagné et que même s'il y a des conférences comme ça qui sont organisées ou des expositions d'ailleurs, il faut pas qu'ils se disent que ça va être réglé et qu'il faut qu'ils arrêtent leurs actions tout de suite.
Alors je suis d'accord avec Pauline, c'est vrai que voilà, et après il fait des déplacements, c'est bien, mais je pense qu'il a peut-être un peu oublié la population, parce que c'est vrai que moi aussi, du côté de chez moi, les gens ils savent pas ce que c'est. On leur parle de ça, et oui, c'est pour l'environnement, je crois, mais ils n'en savent pas plus, et je pense qu'il a peut-être dû faire quelque chose de plus pour informer la population, justement.
Moi, je pense que honnêtement, sans toutes les associations, donc notamment celle de Nicolas Hulot, on n'aurait pas vraiment été informé. Et je pense que c'est pas grâce à François Hollande que on doit le peu d'informations qu'on a nous et notre entourage par rapport à la COP21. Je pense vraiment que l'investissement vient pas vraiment de lui et que c'est un peu dommage. Je pense que le fait qu'il fasse son petit sprint entre guillemets un mois avant, ça pardonne pas le fait qu'il n'ait pas vraiment parti au même degré que toutes les associations qui ont informé. Je trouve ça dommage qu'ils ne se soient pas autant investis avant.
Je suis d'accord avec toi, soyons honnêtes. Je pense qu'il n'y a aucun pays qui n'a fait suffisamment de gestes et d'actions concrètes. Et on peut penser qu'il y a beaucoup d'actions locales ou régionales qu'on ne connaît pas forcément. Mais toujours est-il, je pense que c'est peut-être insuffisant. Et je vais rebondir sur ce que disait Pauline, il n'y a pas assez de gens informés. On a eu l'occasion de faire un micro-trottoir à Nantes, à côté du bateau Tara, le dimanche 18 octobre avec les élèves de seconde. Et c'était très intéressant de voir la réaction des gens qui flânaient le dimanche. Combien d'entre eux connaissaient la COP21? Je n'ai pas les statistiques exactes, mais peut-être la moitié savait ce que c'était et l'autre moitié ne savait pas du tout ce que c'était la COP21. Et donc on aura l'occasion de réécouter ces micro-trottoirs à un moment donné peut-être.
Mais aussi je suis d'accord sur le fait qu'on a vraiment été informés par les associations, et je pense que justement les populations, si elles sont pas assez informées, c'est du fait qu'il y a peut-être pas assez de publicité. Comme le disait Marine, François Hollande agit vraiment au dernier moment, et même au niveau de la publicité qu'on peut voir à la télé, ça a vraiment été publié au dernier moment, et c'est vraiment des publicités qui à mon goût sont vraiment trop courtes, qui durent 20 secondes. Et je pense que c'est pour ça que la population ne connaît pas encore assez la COP21.
Eh bien, nous arrivons à terme de cette émission L'Actu Verte, l'actualité sur notre planète présentée par nous les jeunes. Nous remercions Emmanuel à la technique. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de www.fréquence-sillé.org et en rediffusion le lundi à 7h, le vendredi à 8h, le samedi à 10h et le dimanche à 18h. Nous vous souhaitons une belle journée et une planète en bonne santé. Au revoir.
Au revoir.
On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer,
on veut du gras.